Frères et sœurs, partout dans le monde actuellement, il y a des gens qui souffrent et qui souffrent d'avoir la mauvaise forme de gouvernement. Les gens réclament d'avoir un bon gouvernement qui prenne soin d'eux, vraiment, qui règle les problèmes. On voit les terribles dictateurs en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine, en Asie. Les gens souffrent et se demandent ce qu'il y a qui ne fonctionne pas. En Afghanistan, il y a beaucoup de corruption. Au Pakistan, ils ont eu cette inondation où il y a des centaines et même au-delà de 1000 personnes décédées dernièrement. Et les gens se demandent ce qui ne va pas avec leur gouvernement dans toutes sortes de situations. Partout dans le monde, les gens ont des problèmes et réalisent que l'instrument majeur qui pourrait régler leurs problèmes et les aider ne fonctionne pas bien. Est-ce que ma voix est bien perçue? Bon, ça va. De toute façon, on ne réfléchit pas souvent à cela, mais on devrait le faire parce que notre message total est basé sur la question du gouvernement, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu et il nous faut y penser. Et c'est très important, c'est essentiel. Aux États-Unis, comme ailleurs dans d'autres pays, il y a beaucoup de corruption, même au niveau gouvernemental, chez les dirigeants. Ici, des gouverneurs, des représentants d'État, des sénateurs, je nommerai pas personne ici, bien sûr, mais des dirigeants d'entreprise et des dirigeants politiques sont corrompus. Les gens ont besoin d'avoir un gouvernement juste. On voit dans les journaux et dans les bulletins de nouvelles que les dirigeants politiques nous jouent des tours en prétendant que tel projet va coûter tel montant, mais que ça coûte beaucoup plus cher. Et ils hypothèquent notre futur et les générations à venir. Nous avons besoin d'un gouvernement juste. Et dans la Bible, il en est question clairement à de nombreuses reprises. Frères et sœurs, en ce moment même, dans quelques-uns des groupes issus de l'Église universelle, dans 4 ou 5 groupes de ces gens-là, ils ont des problèmes de gouvernement actuellement. Et plusieurs centaines de leurs membres sont en train de quitter actuellement parce qu'ils en souffrent. Ces groupes-là ont emprunté des sentiers contraires à ceux que M. Armstrong enseignait et contraires à ceux de la Bible. Et les gens en souffrent terriblement en ce moment même. Alors, il nous faut comprendre en quoi consiste le gouvernement selon Dieu. Nous, dans l'Église de Dieu, nous sommes à l'entraînement actuellement pour administrer le gouvernement de Dieu dans le monde à venir. Et nous devons en vivre maintenant. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes appelés. M. Armstrong l'a mentionné à de nombreuses reprises. Nous ne sommes pas appelés d'abord pour être sauvés, mais pour faire l'œuvre de Dieu, pour annoncer le merveilleux monde à venir, le gouvernement de Dieu qui va être établi sur la terre. Et nous devons en même temps nous préparer à être ses dirigeants dans le monde à venir pour régner sur toutes les nations de la terre. C'est là notre entraînement actuellement. Et dans ces groupes-là, plusieurs ne comprennent pas le gouvernement de Dieu. Ils devraient le comprendre. Leurs dirigeants devraient le comprendre, mais ils ont rejeté la bonne forme de gouvernement et la bonne sorte de structure gouvernementale. Et ils ont des problèmes et les gens en souffrent dans ces groupes-là. Alors, frères et sœurs, nous devons réfléchir à ça. Est-ce que nous sommes en train d'appliquer la bonne sorte de gouvernement et de respecter la sorte de gouvernement que Dieu veut avoir dans son Église? C'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Dans le monde entier, on voit toutes sortes de formes de mauvais gouvernement. Monsieur Armstrong, lorsqu'on lit ses articles et lorsqu'on lit son autobiographie, M. Armstrong a dû quitter l'église de Sardes parce qu'il n'était pas capable de prêcher la bonne chose et n'appliquait pas la bonne forme de gouvernement. Il faisait de la politique, il y avait toutes sortes de petits jeux politiques. Tel groupe allait dans telle direction, telle partie de l'église allait dans l'autre direction. Et les gens diluaient la vérité. Il y avait des jeux politiques et même concernant les doctrines et les pratiques de l'Église. Alors, M. Armstrong a dû quitter ce groupe-là parce qu'il prêchait la vérité concernant les descendants modernes des nations d'Israël et ce n'était pas accepté. D'autres personnes venaient à l'Église, à ce moment-là, à l'Église de Sardes, et voulaient diluer les choses. Lorsque vous lisez le livre de Richard Nichols, l'histoire de l'Église du septième jour, l'homme décrit la confusion qu'il y avait dans l'Église de Dieu à ce moment-là, au moment de l'Église de Sardes. Cet homme-là a travaillé à Pasadena, à l'Église, et a écrit ce livre-là. Et il décrit tous les aspects de politicaillerie qu'il y avait dans l'Église de Sardes à ce moment-là. Ça l'a diminué leur efficacité à annoncer l'Évangile parce qu'ils n'avaient pas la bonne sorte de gouvernement. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples de mauvais gouvernements dans le monde, mais je n'aurai pas le temps parce que je veux garder l'attention sur le point principal. Vous avez déjà lu ces choses-là, pour du moins certains des plus anciens parmi nous. Nous n'adorons pas M. Armstrong, mais Dieu l'a utilisé, malgré ses faiblesses, malgré ses limitations, et Dieu l'a béni pour annoncer l'Évangile dans le monde. Et il a donné la connaissance du sabbat à un très grand nombre de personnes. Il a enseigné plus de gens concernant le sabbat que n'importe quelle autre personne sur la terre et n'importe quelle autre église, et concernant aussi le royaume de Dieu. Dieu a utilisé M. Armstrong puissamment. M. Armstrong, vous vous rappelez, a parlé des 18 vérités que Dieu a rétablies dans l'Église à travers lui. Il a restauré 18 vérités. Et la première vérité qu'il a restaurée dans l'Église concernait le gouvernement de Dieu, la bonne forme de gouvernement. M. Armstrong en a parlé à de nombreuses reprises parce qu'il a réalisé de plus en plus à quel point c'était important. Lorsque je suis arrivé à l'ambassadeur collège, je n'en parlais pas beaucoup. Il y avait beaucoup de problèmes à régler à ce moment-là. Les gens essayaient de l'attaquer, de causer des divisions. Après coup, avec les années, il a réalisé que c'est la mauvaise forme de gouvernement qui a causé tant de problèmes dans l'Église de Sardes. Et vous vous rappelez, M. Armstrong disait souvent, « Toute la question est une question de gouvernement. » Toute la question en est une de gouvernement dans l'Église. Et c'est vrai. M. Appartient s'en rappelle. Il y a différentes façons d'aborder la question, bien sûr, mais un des aspects de regarder le christianisme, on peut en parler en termes d'amour, bien sûr. Et dans Éphésiens, il est question de vaincre Satan. Dans Éphésiens chapitre 6, il est indiqué de prendre le bouclier de la foi. Bien sûr, c'est un autre aspect du gouvernement, la foi, l'amour, mais lorsqu'on le voit dans l'ensemble, le message de l'Évangile dans son ensemble, ça concerne bien sûr l'amour, ça concerne bien sûr la foi, ça concerne bien sûr les 10 commandements et le repentir personnel, mais au-delà de tout et par-dessus tout, c'est une question de gouvernement, le royaume de Dieu qui s'en vient. Je reviens de l'Angleterre, le royaume de Sa Majesté la Reine Élisabeth. J'ai donné des conférences à Londres. Il s'agit du Royaume-Uni. C'est un royaume. C'est un gouvernement. Comme M. Armstrong disait, royaume, ça veut dire un gouvernement et plusieurs ne comprennent pas ça. Plusieurs d'entre vous, vous avez grandi dans l'Église catholique ou dans des églises protestantes et vous n'aviez pas ce concept dans votre esprit. Et automatiquement, vous ne pensez pas en termes de gouvernement lorsqu'on parle du royaume, mais le royaume de Dieu veut dire gouvernement de Dieu. Il nous faut comprendre ce qu'est la base de l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu à être établie bientôt sur la terre. Et le fait de ne pas comprendre ça et de ne pas l'appliquer dans certains groupes, ça leur crée des problèmes. Et M. Armstrong a restauré cette première vérité dans l'Église. Et il nous faut revenir à ça. Vous savez, les gens ont oublié ça tellement rapidement. Certains qui ont étudié sous M. Armstrong ont perdu de vue cette réalité majeure, importante. Comprenons ce sujet essentiel, parce que c'est vraiment important. Allons à Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. M. Armstrong en parlait très souvent de ça. Je ne lis pas ce que M. Armstrong a écrit directement, mais j'ai travaillé beaucoup avec M. Armstrong sur ce point-là et sur d'autres points également, avec Dr. Hay et d'autres également. Alors, dans Genèse, chapitre 1, après avoir créé le ciel et la terre et tous les animaux, et toutes les créatures, Dieu dit au verset 26, puis Dieu dit, le mot hébreu pour Dieu ici, c'est Elohim, c'est un nom unipluriel. Il s'agit de Dieu le Père et son porte-parole, celui qui est devenu Jésus-Christ, son Fils par la suite. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Et il explique, après il dit, il les créa hommes et femmes, et verset 28, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez. C'est un aspect du gouvernement. Le gouvernement que nous avons aujourd'hui commence à approuver les mariages de même sexe. Et il y a un juge en Californie maintenant qui a renversé le désir du peuple et ce qui existait, qui a annulé ça. Nous en sommes rendus, selon un article de journal, à la jugeocratie au lieu de la démocratie aux États-Unis. Voyez-vous, la jugeocratie, ce sont les juges qui renversent les décisions du gouvernement qui contrôle toute chose. Et ce n'est pas la bonne forme de gouvernement non plus. Même la démocratie, ce n'est pas la forme de gouvernement selon Dieu. Absolument pas. Alors, il les a fait hommes et femmes. Et il leur a dit, multipliez, soyez féconds. Et j'ai vu dernièrement dans les journaux, à partir de la décision de ce juge qui a rendu légal le mariage entre gens de même sexe, on a vu des gens s'embrasser à la télévision, se serrer dans les bras. Ça nous rend malades, des gens de même sexe qui se marient. Et nos journaux locaux parlent de ça de façon positive, plutôt que d'exprimer leur horreur devant ça. Et ça se passe au milieu de nos nations, parce que les hommes ont rejeté les lois de Dieu, ont rejeté la parole de Dieu. Les hommes ont rejeté les commandements de Dieu et se sont détournés totalement de Dieu. Et c'est pourquoi nos nations sont en chute libre. Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu a basé le mariage sur le fait qu'un homme et une femme allaient avoir des enfants. Deux hommes ne peuvent pas avoir d'enfants, deux femmes ne peuvent pas avoir d'enfants. Et dominer sur les poissons de la mer et ainsi de suite, sur la création. C'est une forme de gouvernement, c'est ça, le gouvernement de Dieu aussi. L'homme a été fait à l'image de Dieu avec la possibilité de penser, la possibilité de créer, la possibilité de choisir, de prendre des décisions. Et l'homme devait apprendre la bonne forme de gouvernement sous Dieu. Alors, on remonte au plan original de Dieu depuis le tout début. Allez à Genèse 2 maintenant, le verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables et bons à voir, à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam et Ève ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont pris en prenant l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ils ont pris une combinaison de bien et de mal, un mélange de bien et de mal. Et la démocratie, ce n'est pas seulement mal, c'est un mélange, une combinaison de bien et de mal. Le résultat final, c'est l'autodestruction, la destruction de la nation même. C'est un mélange de bien et de mal. Et il nous faut le réaliser. Lorsque les hommes diluent la vérité de Dieu et se détournent de Dieu, ils ont à en souffrir. Dieu a dit à plusieurs reprises dans sa parole, « N'ajoutez rien à ce que je dis et n'enlevez rien à ce que je dis. » Il y a beaucoup de choses, j'aimerais vous citer comme ça, mais je n'irai pas. On ne doit pas changer ce que Dieu a dit. Dieu a dit, « Ne faites pas ça, n'ajoutez rien à ma parole et ne retranchez rien. » Mais même des gens dans l'Église de Dieu font ça à l'occasion et des groupes issus de l'Église universelle en souffrent. Certains ont prétendu ne pas pouvoir avoir un seul leader parce que à cause de ce que M. Tkach a fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Ils ont changé la forme de gouvernement. Non, il ne faut pas faire ça. Si un homme méchant vient en tête de l'Église ou d'une nation, vous n'essaierez pas de tuer l'homme, vous allez partir, vous allez quitter l'endroit. Voyez-vous, c'est la façon de faire. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous montre qu'il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme lorsqu'il y a un conflit. Et lorsqu'une organisation a comme chef quelqu'un de corrompu ou qui se détourne, à ce moment-là, il faut quitter. Mais écoutez, il n'y a pas personne de parfait. Il y a trois choses principales à vérifier pour voir si c'est la vraie Église et le vrai leadership. Premièrement, est-ce que la vérité biblique est enseignée? Deuxièmement, est-ce que l'œuvre est accomplie? Est-ce que cette Église-là vit selon la bonne forme de gouvernement de Dieu? Si ces trois choses-là sont présentes dans l'Église, c'est là que Dieu travaille. C'est là que le Christ agit. Vérifiez ces choses-là, prouvez-le par vous-même et pour vous-même. Il y a une Église qui fait ces choses plus que toute autre. Et c'est là que Dieu œuvre. D'abord, non pas que les autres groupes issus de l'Église universelle ne lui appartiennent pas, mais n'oubliez pas, il dit à l'Église de Laodicée, à ce groupe-là, dans Apocalypse 3, il leur dit, « Je vous vomirai de ma bouche. » Ils sont appelés Église de Dieu, mais ils diluent les choses. Ils sont tièdes. Le Christ dit, « Je vous vomirai de ma bouche. » On voit ça dans Apocalypse chapitre 3. Alors, il nous faut faire des choix parfois. Mais tant et aussi longtemps que l'œuvre enseigne la vérité, accomplit l'œuvre et pratique la bonne forme de gouvernement selon Dieu, il faut respecter cette Église et continuer à travailler et à supporter ses leaders. Si un homme fait une erreur, vous ne rejetez pas la forme de gouvernement que Dieu a commandée. Allons à Ésaïe chapitre 14 maintenant. Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14. J'essaie de trouver ma place ici. Ésaïe 14, et nous allons lire à partir du verset 12. Tous les érudits bibliques savent que ça parle de Satan ici. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Il parle de Lucifer ici. Tu es abattu à terre. Toi, celui qui affaiblit les nations. Dans certaines versions, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Dieu avait créé trois super archanges, Michael, Lucifer et Gabriel. Et Lucifer, un des trois, s'est détourné de Dieu, s'est rebellé contre Dieu, contre le gouvernement de Dieu, et a entraîné avec lui un tiers des anges qui sont devenus des démons. Il a dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je vais monter au ciel et combattre Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Alors, Dieu parle ici de rejeter Lucifer. Vous pourrez lire Ézéchiel chapitre 28, où il est question de la même chose. Ça parle de Satan et ça donne d'autres détails, certains éléments additionnels à ce que je viens de vous lire. Au début, Satan marchait dans le jardin de Dieu et il était avec Dieu, il servait Dieu jusqu'à temps qu'il pêche par envie, par convoitise, par amertume, par ressentiment contre Dieu. Il a rejeté le gouvernement de Dieu. Vous savez, Dieu a vu faire Lucifer et Dieu ne permettra pas à ce que des rebelles entrent dans son royaume, absolument pas. Laissez-moi vous le répéter. Dieu ne tolérera aucun rebelle dans son royaume. Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui se sont rebellés contre le gouvernement de Dieu et qui se rebellent? Je ne suis pas leur juge, mais plusieurs choses indiquent que ces gens-là qui se rebellent, même dans l'Église de Dieu, qui se rebellent contre Dieu et qui n'observent pas sa forme de gouvernement, vont passer à travers la grande détresse. Dieu va les humilier à travers l'épreuve du feu. Ils seront ébranlés, ils vont pleurer. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et après qu'ils auront appris leur leçon et qu'ils se seront repentis, là, ils pourront entrer dans le royaume de Dieu. Mais ils ne seront probablement pas amenés au lieu de sécurité. J'aimerais que vous tous et tous ceux qui entendaient ce sermon, que vous soyez amenés au lieu de sécurité par Dieu. Mais pour être amenés au lieu de sécurité et pour faire partie de la première résurrection, la meilleure résurrection et d'obtenir la meilleure récompense, il faut que vous soyez loyal au vrai gouvernement de Dieu. Il faut que vous participiez à ce gouvernement, que vous le supportiez, que vous le compreniez et que vous appreniez à l'appliquer parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés maintenant. Si Dieu avait voulu nous appeler seulement pour notre salut personnel, il aurait pu nous appeler durant le millénium ou à une autre époque. Mais il nous a appelés maintenant pour faire son œuvre et pour que nous puissions apprendre et mettre en pratique la vraie forme de gouvernement et que nous fassions partie de la première résurrection, que nous soyons des rois et des enseignants sous le Christ, dans ce gouvernement qui va administrer le monde bientôt. Dieu ne tolérera aucun rebelle dans son royaume. Aucun rebelle n'entrera dans son royaume. C'est pourquoi Dieu nous teste maintenant. Dieu teste ces gens dans ces autres groupes de l'Église universelle et qui ont des problèmes de gouvernement. Dieu est en train de les tester. Nous devons prier pour eux. Nous les aimons. Nous demandons à Dieu de les aider à comprendre, à se réveiller, de sortir de cette mauvaise façon de faire et qu'ils viennent à l'Église où la vérité est enseignée totalement, où elle est pratiquée totalement, où la bonne forme de gouvernement est administrée. J'aime ces gens-là. Je ne parle pas seulement d'un groupe ici. Certains vont trop à gauche, certains sont trop à droite. Je parle des trois ou quatre principaux groupes. Il y en a un groupe qui a un dictateur comme chef, et de l'autre côté, il y a une forme de démocratie, le groupe le plus à gauche. J'ai parlé à quelques familles de ce groupe-là qui nous ont visités il y a quelques années et ils nous ont dit, « Ah, on est mi-chair, mi-poisson, on est libéral, nous sommes très libéraux. » Oui, ils sont libéraux. Ils vont acheter des meubles le jour du sabbat, par exemple. De toute façon, ils savent, mais ils ne laissent pas ces vérités-là pénétrer dans leur esprit et dans leur cœur. C'est sérieux, vous savez. Dieu nous surveille, Dieu nous examine. Il était en train de nous préparer pour être des rois et des administrateurs du monde à venir de son gouvernement. Est-ce que nous sommes en train d'apprendre et de mettre en pratique la vraie forme de gouvernement? Il nous faut apprendre à le faire. Allez à Hébreux chapitre 2 maintenant. Hébreux chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 5. Un passage fameux ici. Dieu parle de nous ici. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Pourquoi Dieu travaille avec nous qui sommes si petits, si faibles? Vous savez, je sais qu'il y a des gens qui se promènent et qui se pensent importants, mais du point de vue de Dieu, nous sommes des fourmis sur ce grain de sable qui est dans l'espace qu'on appelle la Terre. Nous sommes rien, nous sommes tellement petits comparés à Dieu. Et certains se pensent importants et se disent importants. Ils pensent être une fourmi importante, si vous voulez. Winston Churchill a dit déjà, « Je sais que nous sommes tous des vers, mais je crois que je suis un ver plus brillant. » Et c'est la façon dont certaines personnes se voient. Et il nous faut faire attention, nous avons tous de la vanité. Il nous faut faire attention comment on se voit et comment on voit les choses. Verset 7, « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Dieu, dans son plan, veut donner à l'homme de diriger toutes choses, de posséder toutes choses. Paul continue ici en disant, au verset 8, « En effet, en lui soumettant toutes choses. » Et « toutes choses » ici, dans le grec original, veut dire « tout l'univers, tout le cosmos ». En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Éventuellement, nous allons assister le Christ pour administrer non seulement la Terre, mais l'ensemble des planètes et de l'univers. Ça a eu des implications énormes. Vous pourrez lire dans Ésaïe, il est marqué qu'il n'y aura pas de fin à la croissance de son royaume, de son gouvernement, en parlant du Christ. Nous allons continuer à créer. Éventuellement, Dieu aura des milliers et des millions et des milliards d'enfants, d'esprits, des gens qui sont transformés en esprits et qui pourront recréer, pour ainsi dire, l'ensemble des planètes. Il y aura des choses excitantes, enthousiasmantes pour nous en avant. Et ce qu'on fait actuellement, c'est très peu, c'est tellement petit à côté de ce qui s'en vient. Dans l'Église, on voit parfois quelqu'un qui est ordonné diacre, par exemple, et la femme de quelqu'un d'autre dit « Ah, ça me fâche parce que ça aurait dû être mon mari qui soit ordonné. » Ça ne doit pas se faire, ça. Je me rappelle, il y a un évangéliste qui m'a dit dans le passé, « Vous savez, quel que soit le poste que nous occupons aujourd'hui dans l'Église ou dans nos fonctions de travail, qu'on soit vice-président ou en charge de ceci ou de cela, c'est tellement rien. » Et c'est vrai, à côté de ce qui nous attend, de ce que nous allons avoir à accomplir dans le monde à venir. Et j'espère que vous pensez à ça de temps en temps. Je sais que la nature humaine nous pousse à vouloir compétitionner les uns avec les autres. On change votre travail, on vous change de poste ou on vous transfère. C'est rien. C'est comme des enfants qui jouent dans un carré de sable. C'est rien. Dieu nous observe et Dieu regarde comment on réagit face à ces choses-là. Vous savez, j'ai connu des hauts et des bas tout au long de ma vie dans ces choses-là. Je faisais des blagues, je disais, j'ai entraîné la plupart de ceux qui sont devenus mes patrons, sauf M. Armstrong. Ted Armstrong, le garçon de M. Armstrong, a été un de mes étudiants. Je lui ai montré comment organiser un sermon, pas comment parler, parce qu'il savait très bien parler, il avait une belle voix comme son père, mais je lui ai montré comment organiser ses messages, et à deux, trois reprises, il m'en a remercié. Lorsqu'il restait fidèle à ce que je lui ai montré là-dessus, c'était plus clair. Parfois, il s'éloignait trop et c'était difficile à suivre. Mais il avait cette voix et cette personnalité impressionnante. J'ai enseigné à Al Portun, Charles Hunting, Dave Anchin, Ron Dark. Ces gens-là étaient dans mes cours et ces gens-là sont devenus mes patrons à différentes occasions. Alors, voyez-vous? Ce sont des choses qui se sont produites dans ma vie. Il fallait que je vive avec ça. Et je me disais, j'ai quelque chose à apprendre avec ça. Est-ce que je l'ai fait parfaitement? Non, pas du tout. Non, absolument pas. Parfois, j'ai eu des mauvaises attitudes à l'occasion, mais j'ai prié Dieu, j'ai jeûné là-dessus, j'ai demandé l'aide de Dieu et j'ai continué le travail que j'avais à faire. Et vous pouvez le faire également. Ne vous attendez pas à ce que nous soyons parfaits. Il n'y aura pas de gouvernement parfait de Dieu sur la terre avant la résurrection des morts, avant que le Christ soit là et nous rende parfaits. Mais écoutez, si M. Ames doit prendre ma place un jour, il va continuer le travail et il devra continuer à appliquer le gouvernement de Dieu. Ne vous attendez pas à ce qu'il soit parfait, ni personne d'autre. Ça ne sera pas comme ça. Nous sommes des humains. Mais si l'œuvre est accomplie, si la vérité continue d'être enseignée dans l'Église et si la bonne forme de gouvernement est appliquée dans l'Église, alors gardez vos yeux sur la grande perspective et ne vous en détournez pas, et ne vous détournez pas de l'Église, ne soyez pas rebelles. Voilà toute la question. Nous avons été entraînés, nous sommes à l'entraînement pour administrer l'univers entier. Allons à Marc chapitre 1 maintenant, Marc chapitre 1. L'évangile de Marc, c'est un passage fameux, très connu. Marc, chapitre 1, et le verset 14. « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant quoi? L'évangile de Dieu. » Est-ce qu'il disait « Aimez Dieu? » Je sais que Jésus m'aime vraiment parce que la Bible dit clairement, comme on nous enseignait dans l'Église méthodiste, à l'école du dimanche. Non, le Christ est venu prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Et ça veut dire le gouvernement de Dieu. Il était le Messie et son message n'était pas sur sa personne même, mais sur le gouvernement de Dieu à être établi sur la terre et sur les lois de Dieu, sur les voies de Dieu, sur ses commandements. Et il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu est proche. Voyez-vous, le gouvernement de Dieu. Et il a dit après ça, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il nous faut nous repentir de nos péchés et croire ce que Dieu dit, et nous devons le mettre en pratique. La vraie bonne nouvelle concerne notre appel, et notre appel est directement lié à devenir des administrateurs, des dirigeants, des rois et des enseignants dans le monde à venir, dans le gouvernement de Dieu sous le Christ, en étant membre de la famille de Dieu, membre du gouvernement de Dieu sous Jésus-Christ, sur la terre entière, pendant toute l'éternité. Allons à Luc maintenant, Luc chapitre 19, Luc chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 11. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Ils pensaient que le gouvernement de Dieu allait être établi à ce moment-là. Voyez-vous, on voit par ça qu'ils savaient que le royaume de Dieu, ce n'était pas une émotion dans votre cœur, mais que le royaume de Dieu, c'était vraiment un gouvernement réel. Et ils espéraient que Jésus allait remplacer la domination des Romains sur eux et qu'il allait établir un gouvernement littéral. Et le Christ a expliqué ensuite, verset 12, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir. » Après, il est revenu et il a regardé ce qu'ils avaient fait avec ce qu'il leur avait donné. Verset 16, « Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Donc, « Seigneur, j'ai multiplié par 10 ce que tu m'as donné. » Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Merveilleux. Je vais te donner une grande harpe et tu vas pouvoir aller au-dessus des nuages et jouer de la harpe pendant l'éternité et manger de la crème glacée avec rien à faire. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, c'est bien bon serviteur parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes, donc l'administration de 10 villes. Et il est allé au suivant. Celui qui avait augmenté ce que Dieu lui avait donné par 5 fois, et il lui dit, tu vas avoir 5 villes à administrer. Les protestants, certains rejettent ça complètement, ou ils disent que les 10 villes en question, c'est symbolique simplement, et que ça ne veut pas réellement dire ce que ça veut dire, et que ça ne parle pas de gouvernement. Plusieurs disent que ce n'est pas exact ce qui est écrit ici, que ce n'est pas littéral, alors que c'est vraiment littéral. Le courant principal du protestantisme parle de cette façon-là. Mais les exemples qui nous sont donnés ici tout au long du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, sans exception, ça nous montre un gouvernement réel qui va être appliqué, administré, établi sur cette terre-ci. Et c'est toujours le même modèle, le même mode de gouvernement que l'on voit. Allons au verset 22 maintenant, au chapitre 22, Luc 22 et le verset 28, il leur dit à ses disciples, « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume, du gouvernement en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, dans mon gouvernement, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Et juger, ça veut dire administrer. Moïse était un juge, ayant la double fonction de roi et d'enseignant. Samuel aussi était un juge en ce sens-là. Alors, la récompense qu'ils recevront, les disciples, c'est d'être assis sur des trônes et d'administrer les tribus d'Israël. Qui sera le juge au-dessus des États-Unis, au-dessus de Manassé? Qui sera juge au-dessus d'Éphraïm? Sur l'Empire britannique, d'autres seront juges sur la Hollande, sur Zébulon ou sur la France, sur Ruben et sur les autres nations d'Israël, et d'autres seront juges sur les nations gentilles autour du globe. Mais tous seront sous le Christ qui sera le roi des rois. Il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de compétition. Ils auront le Christ comme leur roi et le gouvernement sera juste et équitable et bon. Partout dans la Bible, vous voyez cette description du gouvernement. Allez à Apocalypse chapitre 2, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 2, verset 26, c'est le Christ qui parle ici. Il parle à la première personne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres dans sa façon de vivre, il nous faut tenir le coup jusqu'à la fin, tenir bon. Je donnerai autorité à celui-là sur les nations. Il les paîtra avec une verge de fer. Non pas s'asseoir sur des trônes pour jouer de la harpe, non, mais pour administrer des nations, pour diriger des nations. Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Il nous faut être des vainqueurs. Il nous faut vaincre notre nature humaine. Il faut vaincre le monde de Satan avec ses tentations. Il nous faut vaincre notre nature humaine, Satan. Et nous recevrons des postes gouvernementaux sous le Christ. Allons plus loin, Apocalypse 5 et le verset 9, où on parle de la prière des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, ça parle du Christ, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux, ses futurs, un royaume. Et il le met au passé parce que rien ne peut arrêter Dieu de faire ces choses-là pour lui. C'est comme si c'était déjà réglé. Tu as fait d'eux, selon ton plan, un royaume et des sacrificateurs. C'est l'avenir qui est réservé aux saints qui sont fidèles pour notre Dieu. Et ils régneront où? Dans les cieux? Non, sur la terre. Lisez-le. Certains d'entre vous, vous êtes nouveaux avec nous. Lisez comme il faut. Ce n'est pas au ciel qu'on va, c'est sur la terre. C'est sur la terre que le gouvernement de Dieu sera établi. Les adventistes du septième jour pensent qu'on va aller au ciel pendant 1000 ans et qu'on va examiner les livres pour effectuer un jugement d'investigation. Mais ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas biblique, absolument pas. La Bible ne dit aucun mot d'un tel principe. Ellen White avait une imagination fertile, celle qui était en charge des Adventistes du septième jour. Nous sommes à l'entraînement pour devenir des rois et des enseignants. Plusieurs de nos frères issus de l'Église universelle de Dieu et qui font partie des groupes, parfois sont mêlés en ce qui concerne le gouvernement. Écoutez, vous, ici dans l'Église, vous allez être testés aussi concernant le gouvernement. J'ai été testé en ce qui concerne le gouvernement de Dieu, encore, encore et encore. Je ne veux pas vous donner tous les détails, je vous en ai déjà parlé. Je pourrais vous en parler pendant des heures, et ça m'est arrivé souvent de voir des choses qui étaient mal faites ou des mauvaises décisions qui étaient prises, et ainsi de suite. Mais je n'ai pas remis en cause le gouvernement de Dieu pour ça. J'ai été corrigé même. Parfois, c'était des corrections qui étaient méritées. Parfois, ces corrections étaient non méritées. Mais je m'efforçais de regarder la perspective d'ensemble et je m'en remettais à Dieu qui était en charge. Et en bout de ligne, ça tournait toujours au mieux. Il est Dieu. Et Dieu règle les choses à sa façon, en son temps. J'ai été loyal au Christ, et vous me connaissez, pour plusieurs d'entre vous, Mme McNair, M. et Mme Appartient qui sont ici, M. et Mme Davis et d'autres, vous savez que j'ai été loyal envers M. Tikach. Je l'ai entraîné, M. Tikach. Je l'ai ordonné en tant que diacre et j'ai participé à son ordination avec M. Blackwell comme ancien local et avec la recommandation de M. Blackwell, on l'a amené à Pasadena. Et ça, c'était le début des problèmes, mais je ne savais pas ça à ce moment-là. Je savais qu'il ne prêchait pas très, très bien. J'ai dit à M. Blackwell, mais il n'est pas bon pour prêcher beaucoup. Mais M. Blackwell dit, il y a tellement de zèle et d'enthousiasme. Mais on a vu par la suite qu'il ne comprenait pas vraiment les doctrines. Et le 16 de janvier au matin, lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit, M. Armstrong vient de décéder. Et j'aimerais avoir une réunion avec le Conseil des anciens. J'aimerais que nous prenions une photo de groupe également. Alors, je suis allé le voir à son bureau avant cette réunion-là et je lui ai dit, Monsieur Tikach, voici l'homme que j'avais aidé tout au long de sa carrière, pour ainsi dire. J'avais été son patron pendant plusieurs années Je lui ai dit, je vais être loyal envers vous tant et aussi longtemps que vous allez suivre la voie de M. Armstrong et que vous allez appliquer les principes bibliques. Et c'est ce que j'ai fait. Et il m'a dit, ne m'appelez pas M. Tikach. Il voulait que tout le monde l'appelle Joe. Non, j'ai résisté. Non, j'ai dit non, je ne vous appellerai pas Joe. Je l'avais fait dans le passé, mais je ne le ferai plus maintenant à cause du poste que vous occupez. Personne qui n'occupe votre fonction doit être appelé par son petit nom. Les membres de votre famille ou vos amis très proches peuvent le faire, mais personne dans l'Église ne doit vous appeler par votre petit nom parce que vous occupez un poste. Et même s'il a mal utilisé son poste, il occupait le poste et on doit respecter ce poste. Et c'est ce que j'ai fait de mon mieux. Et j'espère que vous respectez et que vous allez respecter le poste. Vous pouvez dire, oui, vous avez quitté une église. Écoutez, j'aurais pu quitter 3 ans auparavant quand Gérald Fleury a quitté et j'ai été appelé par le fils de M. Fleury. J'avais regardé quelques émissions, j'avais entendu quelques émissions de M. Fleury. Je savais, c'était mon étudiant qui avait été. Mon épouse me demandait ce que je faisais en écoutant ça. Je lui ai dit, non, je veux savoir qu'est-ce qu'il prêche. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'inconsistance, d'incohérence dans ses messages. Et il interprétait mal, il comprenait mal les passages bibliques. Alors, je savais à quelle enseigne il logeait. Je savais à partir de ce moment-là, et même par son arrogance, que ce n'était pas l'homme qu'il fallait suivre. M. Armstrong m'avait dit aussi, ne suivez pas mon fils Ted. Je connaissais très bien Ted aussi. Et je savais les problèmes qu'ils avaient eus. Alors, ce n'était pas l'homme à suivre, Ted Armstrong. Et j'ai attendu. Et tout à coup, il y a 5 choses. Dans l'espace de 3 ou 4 mois, il y a 4 ou 5 choses qui sont arrivées à la suite les unes des autres qui m'ont montré qu'il fallait que je quitte. Je devais quitter l'Église universelle de Dieu à ce moment-là. Et un des évangélistes m'a dit, ils vont changer toutes choses. Ils vont tout changer. Et quand j'ai vu qu'ils commençaient à faire ça, et surtout quand ils ont publié leur brochure « Dieu est », qui présentait un faux Dieu. Alors, j'ai vu qu'il fallait que je quitte à ce moment-là. Je ne pouvais pas poursuivre. Écoutez, j'avais des responsabilités parce que j'étais le plus ancien évangéliste à ce moment-là. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas d'autre choix. Et me voici maintenant. Peut-être vous allez dire pourquoi je suis leader. Écoutez, je suis faible, je suis très humain, je sais. Je suis faible même physiquement depuis que j'ai eu des problèmes cardiaque et M. Ames devra peut-être prendre ma place un jour. Mais je dois vous dire ceci. Je ne dis pas ça en vanité, mais je suis le seul évangéliste original ordonné par M. Armstrong qui est encore en vie parmi les 5 premiers. Tous les autres sont décédés parmi les plus anciens. M. Appartient est là, mais il a été ordonné un petit peu après moi. Nous sommes contents que M. Appartient soit là pour faire l'œuvre avec nous. Mais je devais quitter à ce moment-là. C'était ma responsabilité. Je le savais que c'était ma responsabilité. J'étais le seul évangéliste des 5 évangélistes originaux qui avaient été ordonnés et je devais continuer l'œuvre. J'ai commencé l'Église globale et Dieu s'est servi de moi. Le Christ m'a aidé. Et cette Église globale est devenue maintenant l'Église du Dieu vivant et Dieu nous bénit. Nous prêchons la vérité plus que tout autre groupe. Et nous essayons d'être équilibrés. Nous ne voulons pas être libéraux en diluant les choses et en diluant la question de gouvernement de Dieu. Certains qui sont à gauche commencent à croire à la Trinité et ne croient pas aux airs de l'Église. Ils ont ce problème-là. Du côté de la droite, il y a des dictateurs, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, si vous avez des questions, ils vous mettent en dehors de l'Église. Nous voulons être centristes, nous voulons être équilibrés, par-dessus tout. Est-ce qu'on est parfait? Non, j'aimerais être parfait. Le Christ est le seul humain parfait qui a existé sur la face de la terre. Mais nous sommes plus équilibrés dans notre approche que tout autre groupe issu de l'Église universelle de Dieu. Je pense que vous le savez. Et Dieu nous utilise pour accomplir son œuvre. Et il y a des centaines de ces gens-là qui viennent avec nous maintenant. Un tiers d'un de ces groupes-là en Angleterre vient de joindre nos rangs. Nous voulons aider ces gens-là à comprendre la vraie forme de gouvernement. Certains disent « nous sommes tous pareils ». Non, nous ne sommes pas tous pareils. Cette question de gouvernement est essentielle, elle est extrêmement importante. Les gens qui diluent cette question de gouvernement sont en difficulté et vont avoir des problèmes majeurs. Il faut le réaliser plus que jamais. Nous sommes testés actuellement, nous sommes testés. Et nous devons administrer la vraie forme de gouvernement. Allons maintenant au livre d'Exode. Allons à Exode, chapitre 18, où on voit le modèle de gouvernement que Dieu a inspiré d'être établi dans son Église. Et c'est le Christ qui est en charge, le rocher d'Israël, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a guidé Moïse ici. On voit Exode, chapitre 18 et le verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Alors tout le monde devenait fatigué et c'était trop lourd. Moïse répondit à son beau-père, « Que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces et tu ne pourras pas y suffire seul. » Voyez-vous? Le beau-père de Moïse avait été inspiré par Dieu de lui faire comprendre la bonne forme de gouvernement que Dieu voulait voir dans son peuple. Dieu a inspiré Moïse de faire ça. Et le roi David a appliqué le même principe. Voilà le modèle que Dieu lui-même a donné à son Église, à son peuple dans l'ancienne nation d'Israël et à son Église dans le Nouveau Testament. Et ça n'a jamais été changé. Et regardez le verset 21. Voici comment procéder. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Alors, il faut que ce soit des gens qui aient la capacité de le faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Il fallait qu'ils demandent conseil. Écoutez, dans le livre des Proverbes, à 4 ou 5 endroits, il est bien indiqué qu'il est sage de faire appel à un grand nombre de conseillers. Nous devons mettre en pratique ce principe et nous le faisons. Il est sage de faire appel à un grand nombre de conseillers. Dans l'Église du Dieu vivant, nous avons un conseil des anciens. Et s'il m'arrivait de prêcher des hérésies ou si je faisais des actes de grande immoralité ou d'adultère, ou si je m'enivrais de façon répétée ou si je commettais des vols, ils interviendraient. Autrement, ils doivent suivre ma direction. Mais on n'a jamais eu de différend, le conseil des anciens et moi. Nous appliquons les principes de la Bible. Nous discutons des choses et lorsque je dois trancher, je tranche la question comme c'est mon rôle de le faire. Et il ne nous est jamais arrivé d'être en désaccord sur les choses de base. Nos décisions sont habituellement unanimes, presque dans tous les cas. Alors il dit, « Choisis des hommes capables, non pas des femmes. Je n'ai rien contre les dames, vous savez, mais Dieu a établi les hommes pour être des juges. » On a maintenant sur la Cour suprême des États-Unis, une femme qui a été nommée. Et ça complète le fait que la Cour suprême est remplie de gens très libéraux. Alors, il dit ici, « Choisis des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. » Alors, il devait y avoir une hiérarchie dans ce gouvernement. Moïse était le juge en charge, le leader, et sous lui, des chefs de 1000. Et l'implication de ça, dans l'hébreu, c'est que le chef de 1000 devait être le chef de 1000 chefs de famille. Ça voulait dire qu'il était chef de plusieurs milliers de personnes à ce moment-là. Et ainsi de suite. Verset 22, qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'il prononce eux-mêmes sur les petites causes. » Voyez-vous, ça c'était le principe à appliquer. Alors, Moïse écouta, verset 24, la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il lui avait dit. Et Dieu a été avec lui. Et voilà le modèle que Dieu a établi dès le début. Un gouvernement du haut en bas. Une hiérarchie claire. Ce n'est pas un gouvernement du bas vers le haut. Un gouvernement du bas vers le haut, c'est la confusion. Ça veut dire jouer à la politique. Ça veut dire de faire des négociations et des jeux de coulisses. Créer des divisions pour essayer de se mettre en place. Certaines personnes disent, on a vu des choses répréhensibles arriver dans des gouvernements avec un leader comme il y a eu dans l'Église universelle. Mais écoutez, c'est une exception, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas rejeter la façon de faire de Dieu parce qu'un leader n'a pas tenu son rang ou s'est détourné de Dieu. Nous allons devoir changer toutes les administrations publiques d'ici quelques brèves années. Il nous faut comprendre le modèle de gouvernement de Dieu. Et c'est toujours fait par nomination, par désignation. On voit que le roi David a fait la même chose. Il a nommé des gens. Si on va à Deutéronome maintenant, chapitre 1, Deutéronome chapitre 1, nous allons commencer à lire au verset 12. Moïse dit, « Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? » Il dit, « Je ne peux pas vous juger tous. » Et regardez, il a dit quoi faire maintenant. « Prenez dans vos tribus des hommes sages. » Moïse ne pouvait pas adresser la parole directement à 4, 5, 6 millions de personnes, mais il s'adressait aux leaders qui étaient en charge. Il allait chercher conseil aussi. Mais regardez, « Prenez dans vos tribus des hommes sages. » Il faut qu'ils soient sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Lui allait choisir, allait les désigner. Vous me répondiez en disant, « Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. » Je pris alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chef de mille, voyez-vous, et pas par votation. Je pris alors, c'est Moïse qui parle sous l'inspiration de Dieu, les chefs de vos tribus, et je les mis à votre tête comme chef de mille, chef de cent, chef de cinquante, chef de dix, comme ayant autorité dans vos tribus. Et verset 16, « Je donnai dans le même temps cet ordre à vos juges, et il leur dit, « Jugez avec justice. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends entre vos frères et avec l'étranger. » Donc, il dit, « Soyez justes et que ce soit la même loi qui soit appliquée pour l'étranger au milieu de vous que pour les Israélites. » Il n'y avait pas deux lois. Les Israélites ne devaient pas rendre les autres esclaves et ne devaient pas les exploiter. Il ne peut pas faire ça. Mais à ce moment-là, il faut tenir compte du contexte, c'est que dans la situation à l'époque, il n'y avait pas d'aide sociale, il n'y avait pas d'aide gouvernementale. Alors parfois, certaines familles se plaçaient sous la protection d'une autre famille et devenaient leurs travailleurs pour avoir à vivre, si vous voulez. Mais ce n'était pas la sorte d'esclavage que nous avons connu ici aux États-Unis il y a quelques centaines d'années. Tout ça s'est bien passé. Et il leur dit, Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements, verset 17, vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Voyez-vous, c'est Dieu qui rend la justice. Dieu allait les guider dans leur choix, dans leur décision. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, c'est Moïse qui parle, à ses chefs, à ses leaders, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Alors, on voit que Moïse a nommé, a désigné les leaders sous lui. Allons à 2 Chroniques, s'il vous plaît. 2 Chroniques. 2 Chroniques, j'espère trouver ma place ici un instant. 2 Chroniques, chapitre 19. 2 Chroniques, chapitre 19. On va commencer à lire à partir du verset 4. 2 Chroniques 19, 4. Voyez ce que Dieu dit à Josaphat, un roi juste. C'était un bon roi, un des rois les plus justes qui a régné sur Israël. Bien sûr, il a fait des erreurs, mais c'était un roi qui pratiquait la justice. Verset 4. Josaphat resta à Jérusalem. Et il a ramené des gens à Dieu. Verset 5. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, « Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements. » Et regardez bien, ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous le prononcerez, quand vous les prononcerez, ces jugements. Voyez-vous, le grand Dieu du ciel était avec ses juges charnels. Certains avaient plus qu'une femme. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Parfois, l'Esprit de Dieu était avec eux. Parfois, non, mais on voit que Dieu les guidait quand même, malgré ça. À plus forte raison, maintenant, Dieu guide ses ministres fidèles qui le supplient de lui donner le discernement et la sagesse pour appliquer sa forme de gouvernement. Dieu nous guide plus puissamment aujourd'hui parce que nous avons son Saint-Esprit. Dieu est avec nous. Il nous faut avoir cette confiance. Je l'ai, cette confiance, je le sais. Est-ce que ça veut dire que chaque décision que je vais prendre va vous plaire à chacun? Non. Est-ce que ça veut dire que chaque décision sera juste? Non. Mais la vaste majorité de mes décisions, en concert avec M. Ames, avec M. Appartient, avec M. Crockett, avec M. Winnell et avec M. Rod McNair et avec les autres ministres ici, avec M. Hernandez qui est ici aussi, qui fait partie de notre conseil des anciens, j'ai plusieurs conseillers autour de moi. Lorsque nous sommes tous ensemble, nous sommes 14 ou 15 à trois reprises par année, mais chaque semaine, on se réunit environ 8 du Conseil des anciens et nous discutons des choses à régler. Chaque semaine et parfois plus souvent lorsque nous en avons besoin. Nous avons plus de ministres ici que n'importe où à travers le monde, alors c'est plus facile de faire des consultations. Alors voilà ce qu'ils ont fait et Dieu était avec eux autres dans le jugement. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présents. Voici donc le processus gouvernemental qu'il devait appliquer. On suggérait des noms à Moïse, et Moïse, sous l'inspiration de Dieu, désignait qui devait occuper les postes, comme David a fait par la suite. Allons au Nouveau Testament maintenant dans Luc. Luc chapitre 6, et nous allons lire au verset 12. Ici, Jésus, le Fils de Dieu, nous donne l'exemple concernant le gouvernement qu'il veut voir dans son Église. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. J'ai jamais prié toute la nuit. J'ai parfois prier 2 à 3 heures d'affilée à certaines occasions particulières en demandant à Dieu de nous guider. Lui a prié toute la nuit. Pourquoi? Il a demandé à Dieu de le diriger, de lui donner la sagesse, même s'il était fils de Dieu. Verset 13, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Il les a nommés, il les a désignés. Personne d'entre ses disciples n'a fait un petit discours pour être accepté par lui comme étant ses disciples originaux. Non. Le Christ en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtre. Alors, voilà le modèle que le Christ lui-même nous a donné, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament. Allons à Actes, au livre de Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1, maintenant. Actes 1. Actes chapitre 1. Nous allons voir ici comment ils ont remplacé Judas, qui s'était détourné du Christ. Il fallait qu'il le remplace comme disciple original, comme apôtre. Verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Voyez-vous, ils ont recommandé deux personnes. Pierre a présenté ces noms-là. Puis ils ont prié. Est-ce qu'ils ont voté? Est-ce qu'ils ont fait des jeux politiques? Non. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. » Certains groupes essaient de prétendre qu'ils ont voté ici pour ça. Absolument pas. Absolument pas. C'est clair ici. C'est écrit noir sur blanc. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. C'est la dernière fois que le sort fut tiré, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, et Dieu a béni cette opération-là, leur a montré par là quelle était sa décision, son choix. Maintenant, nous sommes guidés par le Saint-Esprit directement. Nous demandons à Dieu de nous guider par son Saint-Esprit qui est en nous. Par exemple, actuellement, nous avons la décision à prendre de diviser l'Église ici en deux groupes pour un groupe aille à l'Église du matin parce que nous sommes trop nombreux et un autre groupe ira à l'après-midi. Certains vont peut-être ne pas aimer ça, mais à ce moment-là, blâmez M. League, pas moi. De toute façon, j'aurai à prendre la décision finale, bien sûr, en consultant. On veut avoir un peu vos suggestions, vos avis, vos idées là-dessus. Et nous allons permettre à ceux à qui c'est plus facile d'aller le matin, de pouvoir le faire. Et ensuite, s'il y a des décisions à prendre, malgré qu'on veut être juste envers tout le monde, il nous faudra trancher la question. Maintenant, jamais on ne tire au sort. Alors ici, on voit qu'ils ont tiré au sort. En tirant au sort, ils ont fait appel à Dieu de leur montrer quelle était sa décision. Et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Dieu a honoré cette façon de faire pour la dernière fois et il leur a répondu. Allez à Actes chapitre 6, s'il vous plaît. Actes chapitre 6. Ça ne veut pas dire procéder par vote, comme nous allons voir. Actes 6 et le verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi « Frères, choisissez parmi vous 7 hommes. » Ils n'ont pas dit « On va voter. » Dans le fond, ce qu'ils ont dit « On veut avoir votre conseil, on veut avoir vos avis. » Probablement, c'est Pierre qui a pris la parole à ce moment-là. Ils leur ont demandé leur avis, de leur donner conseil, de leur soumettre des noms, de leur suggérer des noms. Et après, eux devaient choisir sous l'inspiration de Dieu. Les disciples devaient choisir, les apôtres devaient choisir. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Voyez-vous, ils les ont nommés, les apôtres ont nommé ceux qu'ils ont choisis parmi les noms qui leur avaient été soumis. Voyez-vous, c'est très clair. C'est la même forme de gouvernement depuis le tout début. Allons à Actes chapitre 14 maintenant. Actes chapitre 14. Ici, c'est le contexte où Paul et Silas avaient été... Paul et Barnabas, pardon, revenaient de cette mission où ils avaient été lapidés à Lystre, verset 21. « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer, par des tests, par des épreuves. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Regardez après, verset 13, « Ils désignèrent des anciens dans chaque église. » Ils désignèrent des anciens. Des élections, non. C'est eux qui ont nommé, qui ont désigné. Paul et Barnabas ont désigné, ont nommé des anciens, des ministres dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Voyez-vous, ils ont demandé à Dieu de les guider et Dieu les a guidés. J'offre 1 000 $ à qui que ce soit qui trouverait dans la Bible une autre forme de gouvernement commandée par Dieu. Il n'y en a pas d'exemple. Je vais vous donner 1 000 $ de ma propre argent, non pas de l'argent d'église. Si vous pouvez montrer dans la Bible des exemples de formes de gouvernement différents de celui que nous venons de voir tout au long de la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. J'ai déjà offert à la radio de donner 10 000 $ à qui que ce soit qui nous donnerait une preuve du fait que Dieu a commandé un jour autre que le sabbat à être observé. Personne n'a pu répondre ou relever mon défi, parce que Dieu a donné le sabbat et ne l'a jamais changé, lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas un mystère, c'est très clair. C'est la même chose que la forme de gouvernement. Alors, on voit ici que ce sont eux qui ont désigné les anciens. Allons maintenant à Éphésiens, s'il vous plaît. Allons à Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, et le verset 19, ça parle de la grande puissance de Dieu et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le Christ est le chef de l'Église. Et je veux souligner quelque chose ici. Dans Hébreux 13, verset 8, il est dit que le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne change pas. Le Christ a inspiré Moïse d'établir cette forme de gouvernement hiérarchique de haut en bas. Le Christ a fait la même chose avec David. Le Christ a inspiré Josaphat de faire la même chose. Le Père a inspiré le Christ d'établir la même forme de gouvernement dans son Église. Paul et Barnabas et Pierre ont fait la même chose. Et le Christ ne change pas et il ne changera pas. C'est la façon avec laquelle le Christ administre son Église, en désignant ceux qui occupent les postes de haut en bas, et il guide ceux qui sont en autorité. Il ne faut pas mettre ça en doute, et il ne faut pas laisser des gens enseigner autre chose que ça. Ceux qui le font manquent de foi, ça prouve leur manque de foi au Christ en tant que chef puissant de l'Église, en tant que chef suprême de l'Église. Lui qui a toujours établi la même forme de gouvernement depuis Moïse jusqu'à maintenant et la même chose dans le monde à venir. Ceux qui manquent le bateau de cette façon-là manquent de foi au Christ qui dirige son Église selon sa promesse comme il a toujours fait et comme il va faire jusqu'à la fin. Rappelez-vous ce point essentiel. Rejeter le gouvernement de Dieu, c'est ne pas avoir foi au Christ véritable, à celui qui est le chef suprême de l'Église, le Tout-Puissant, El Shaddai. Éphésiens 4 et le verset 11 maintenant. Ça parle du Christ encore. « Et il, le Christ, a donné les uns comme apôtres, lui le chef de l'Église, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs enseignants. » Alors, le Christ a établi une hiérarchie de ministres dans son Église. C'est comme ça qu'il procède et il n'a jamais changé. Aujourd'hui, nous avons des évangélistes, nous avons des pasteurs, nous avons des enseignants. Il y a quelques dizaines de personnes qui m'ont déjà dit, c'est pas moi qui ai lancé l'idée. Certains m'ont dit, « Monsieur Meredith, vous êtes un apôtre parce que vous faites ceci et cela. » Ça aurait pu flatter ma vanité. Mais non, je ne suis pas un apôtre. Je veux mettre ça très clair. Si Dieu veut que je sois un apôtre, il va faire en sorte que l'Église deviennent de plus en plus puissantes et de plus en plus grandes, et il va me donner d'accomplir des miracles très puissants et très évidents. Si ça se produit, ça pourra peut-être indiquer que je suis un apôtre. Sinon, j'ai la même petite bouteille d'huile d'olive que j'amène avec moi régulièrement et dont je me sers pour oindre les gens qui sont malades, comme tout autre ministre, et je n'ai pas besoin d'autres titres. Et c'est la même chose en ce qui concerne chacun de nous. Faisons ce que nous avons à faire et laissons le Christ faire ce qu'il a à faire et diriger l'Église. C'est M. Carl McNair qui m'a donné l'idée de prendre le titre que j'ai actuellement de président évangéliste de l'Église du Dieu vivant. On ne voulait pas prendre le titre de pasteur général parce que ça avait une mauvaise connotation à cause de ce qui était arrivé sous M. Tikach. Alors M. McNair, qui est venu avec nous, on en a parlé tous les deux, il m'a dit, « Bon, vous êtes évangéliste et vous êtes en charge, c'est vous qui continuez l'œuvre d'évangéliser. Alors, pourquoi ne pas prendre le titre de président évangéliste? » Et c'est ce que j'ai fait. Nous devons, en toutes circonstances, être des dirigeants serviteurs. Ça, c'est essentiel. Nous ne devons pas dominer sur les gens, nous devons être des serviteurs humbles. Et il ne faut pas nous éloigner de ce modèle, parce que sans ça, nous allons avoir des problèmes. Il faut le réaliser. Alors, ça a toujours été un gouvernement hiérarchique de haut en bas, selon la volonté de Dieu. Dieu est clair là-dessus. Allons au livre de Tite. Dieu a toujours exigé que son gouvernement soit du haut vers le bas. Et c'est lui qui inspire ses leaders et c'est lui qui les dirige. Tite 1 et le verset 5. Paul dit à Tite, ce jeune évangéliste, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses, voyez-vous, pas question de politique, pas question de voter, et que tu établisses des anciens, c'est-à-dire des ministres, dans chaque ville. S'il s'y trouve quelqu'homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit accusé ni de débauche, ni de rébellion, et ainsi de suite. » Allons à 1 Samuel maintenant, s'il vous plaît. 1 Samuel. Voici quelque chose de très important ici encore. 1 Samuel, chapitre 8 et le verset 1. 1 Samuel, chapitre 8 et le verset 1. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. C'est ce que Samuel a fait. Après, il nomme ses fils. Verset 3, « Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. » Ils ont mal agi. Ils ont fait quoi? Ils ont fait la même chose que certains ont fait quand M. Armstrong est devenu vieux, comme Garner Ted a fait, comme d'autres hommes ont fait dans les années 74. J'ai eu à intervenir à ce moment-là pour essayer de tenir le navire à flot, pour ainsi dire, et à maintenir l'œuvre à aller. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils voulaient changer la forme de gouvernement. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Voyez-vous, si tous les ministres se plaçaient contre moi et voulaient me mettre dehors, ce n'est pas le cas, remarquez bien. Si Dieu m'appuie, ils ne réussiront pas. M. Armstrong donnait cet exemple-là. Souvent, M. Armstrong a dit, parce qu'il sentait que son fils et d'autres autour de lui voulaient le renverser, et il disait, s'ils réussissent à me renverser, je vais aller au coin de la rue et je vais repartir à zéro s'il le faut, mais je vais terminer l'œuvre. C'est Dieu qui place ses hommes en place. Verset 5. Et ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi. Ils avaient sur eux un juge, un prophète qui les dirigeait, qui était leur enseignant et leur roi, pour ainsi dire. Et ils n'acceptaient pas cette forme de gouvernement. Ils voulaient avoir un roi comme les autres nations. Ils voulaient avoir une armée. Ça l'a déplu à Samuel beaucoup, ça l'a attristé énormément. Je n'ai pas à me préoccuper de ma vanité parce que je ne vivrai pas tellement longtemps peut-être. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que Dieu va faire avec l'Église. Qu'est-ce que Dieu va faire avec l'Église? Ce n'est pas ce qui plaît à ma vanité qui compte. Ce qui compte, c'est ce que Dieu veut avec son Église. Et regardez ce qu'ils ont dit ici. Verset 6. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Frères et sœurs, à partir de là, La nation d'Israël a été sur une pente descendante continuellement. Ils n'ont pas reçu toutes les bénédictions qu'ils auraient eues autrement. Ils ont eu certaines bénédictions à certains niveaux sous le roi David et dans les premières années du roi Salomon, mais pas dans les dernières parce qu'elles s'étaient détournées de Dieu. Quand la nation avait des prophètes fidèles, ça allait bien. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de ministres dans le monde et ici aux États-Unis qui annoncent un message tout à fait différent de celui de la Bible, qui proclament les mariages de même sexe, qui acceptent l'homosexualité, l'avortement, qui acceptent les couples vivant ensemble sans être mariés. Ils sont tout à fait libéraux avec leur approche démocratique et ça continue de tuer la nation, de détruire la nation et Israël continue d'être sur sa pente descendante. Qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel à ce moment-là? Ce n'est pas toi, Samuel, qui le rejette, c'est moi qui le rejette, comme la nation d'Israël a continué à faire jusqu'à aujourd'hui. Comprenez-le bien. Il nous faut avoir un leader, comme Pierre était un leader de l'Église. Il faut avoir un leader dans la vraie Église de Dieu et suivre ce leader. Si quelque chose m'arrive, honorez M. Ames, suivez-le. Si l'Église continue à prêcher la vérité, si elle continue à accomplir l'œuvre, si elle continue à appliquer la bonne forme de gouvernement selon Dieu, voilà la voie de Dieu. Il n'y a pas d'autre voie que cette voie-là. Plus nous allons être ensemble dans ce sens-là, plus Dieu va nous bénir. Alors, il nous faut faire ça et mettre en pratique la forme de gouvernement de Dieu parce que c'est essentiel. Nous sommes à l'entraînement pour appliquer ça dans le monde entier très bientôt. Allons à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens maintenant. Chapitre 6, 1 Corinthiens, chapitre 6, un verset que j'utilise souvent, un verset clé. 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 1. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? C'est pourquoi nous sommes appelés, nous sommes à l'entraînement, présentement, pour nous préparer à administrer, à diriger, à régner sur le monde à venir. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? L'apôtre Paul, au chapitre précédent, 5, verset 3, Paul a pris des décisions. Pour moi, concernant le fornicateur qui était toléré dans l'Église jusqu'alors, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan, qu'il soit mis en dehors de l'Église, pour qu'il change. Alors, ils n'ont pas voté, absolument pas. Paul a pris la décision et a exclu cet homme-là de l'Église. Voilà la façon dont les choses doivent être faites. C'est la façon de procéder. Les saints vont juger le monde. Verset 3, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? C'est notre futur, c'est là notre avenir. Nous sommes entraînés en vue de ça pour administrer les anges qui seront nos serviteurs à ce moment-là et nous allons administrer des nations entières. Nous sommes à l'entraînement pour ça. Alors, dans l'Église aujourd'hui, dans les situations que nous avons à vivre, nous devons appliquer les lois du vrai gouvernement de Dieu. Nous faisons déjà partie du gouvernement de Dieu maintenant. L'Église de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu en embryon. Nous ne sommes pas nés de nouveau, mais nous sommes l'embryon, comme M. Armstrong a expliqué à différentes reprises. Nous sommes le royaume de Dieu en embryon. Si vous n'aimez pas quelque chose dans l'Église ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, allez parler à votre ministre avec dignité, honnêtement. Parlez-en à Dieu. N'essayez pas de vous rebeller contre le gouvernement et de renverser le gouvernement. Et n'acceptez pas ce qu'on vous dit parfois. Nous sommes tous pareils. Non, sachez-le bien, dites-le à vos frères dans les autres groupes. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes entraînés pour devenir le gouvernement de Dieu. Comment rêver de devenir les administrateurs du monde de demain et les dirigeants du monde à venir si nous n'appliquons pas et ne mettons pas en pratique cette même forme de gouvernement aujourd'hui? Faites-le. Ayez foi que le Christ est vivant. Il est le chef suprême de l'Église. Soyez loyaux envers lui. La bonne forme de gouvernement telle que donnée par Dieu est un élément essentiel de son plan. On le voit clairement tout au long de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse.